21h-22h, Time Foot avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur Beurre FM dans votre émission phare Time Foot durant tout ce mondial. Time Foot, les rendez-vous sont du lundi au vendredi de 21h à 22h et le samedi de 18h à 20h. On le rappelle pour tous les auditeurs de Beurre FM dans cette émission. L'équipe de Time Foot reviendra sur la fin des huitièmes de finale avec le match de la veille dans un premier temps et aussi le Suède-Suisse de cet après-midi sans oublier notre fil rouge de la soirée Colombie-Angleterre qui promet. N'oubliez pas le hashtag TimeFoot sur la Twittosphère et la fanpage Facebook de Beurre FM. Vous pouvez réagir, chers auditeurs, chers auditeurs, comme d'habitude, avec le standard de Beurre FM au 01 53 48 3000. Ce soir avec moi, durant une heure. Et pour cette émission, Mamadou Lamine Mané de Deuxième Conseil. Comment ça va, Mamadou?
Très bien. Bonsoir, les auditeurs. Bonsoir, Bilal.
Ouais.
Je vous ai encore ramené le soleil.
Ah, toujours le soleil. Ouais, ouais, il brille dans toute la France.
Ouais,
c'est super sympa. Salut, Youssef, journaliste sportif. Comment ça va? Salut.
Bonsoir, Bilou. Bonsoir à tous.
Ravi ça va bien
ici. Bah, très très bien, ravi d'être ici avec vous.
Olivier Hédier, pour la première fois sur l'antenne de Beurre FM, écrivain et consultant football. Un réel plaisir de t'avoir avec nous, Olivier.
Bah, merci de m'accueillir et bonsoir à tous.
Et Alexandre Seban, auteur et journaliste, qui est avec nous aussi.
Bonsoir à Bilal, bonsoir à tous, à tous les auditeurs et les auditrices aussi. Hein.
Et il y en a aussi des auditrices qui écoutent Beurre FM et notamment chaque soir durant ce mondial, l'émission Time Foot. Mais de suite, place au match de la veille.
Time Foot, Time Foot. L'analyse.
Et justement, on va revenir sur ce magnifique Belgique-Japon. Les Belges au bout du suspense, mais les Japonais se sont-ils fait harakiri, comme on dit, sur leur fin de match. Mamadou.
Écoute, pour moi, c'est le mondial que je voulais voir. Un des plus beaux matchs. Enfin, vraiment, j'étais très, très, très... pas surpris par les Japonais parce qu'on on connaît leur capacité à se transcender, à aller chercher le résultat et ne jamais lâcher le morceau. Mais hier c'était magnifique. Franchement, j'avais pas une équipe favorite, mais le cours du match et la fin, c'était vraiment super. Et franchement, j'ai un petit pincement au cœur pour les Japonais parce que pour moi, au point, ils auraient dû gagner.
Ouais, ça a été peiné, toi, par
un petit peu. Même malgré que j'avais pas de favoris, mais juste là pour la beauté du geste et pour la fougue et effectivement tout l'allant qu'ils ont pu nous montrer pendant ce match-là, un peu déçu pour eux. Et en plus, super attitude. Je sais pas si vous avez vu que ils ont nettoyé leur vestiaire. Alors c'est peut-être anecdotique, mais ça c'est pas un détail. Ça prouve vraiment effectivement la mentalité de ces joueurs-là et la mentalité de cette nation-là. Ils m'ont vraiment fait plaisir. Un super match de foot.
Magnifique. Salut, on t'écoute. Ouais, pour
par rapport à ce match-là,
le nettoyage du vestiaire, non?
Pardon?
Le nettoyage du vestiaire.
Non, je disais que le Japon.
C'est des images de ESPN, donc confrères américains.
Civilisation, ça, c'est un truc à part.
Ouais.
Mais pour revenir à ce match-là, en fait, moi, ce que je retiens, c'est la force de caractère impressionnante des Belges, parce que je suis sûr que même tout le monde autour des micro, vous allez être d'accord avec moi, on pensait que le Japon allait se qualifier.
Ah, 2-0, c'est évident.
Je pensais,
parce que tranquillement.
Tu regardes le match, le dynamisme des Japonais, la rigueur tactique, tu te dis que le Japon va pas craquer. Or, moi ce que je retiens, c'est le coaching gagnant de Martinez, Chadli Fellaini.
Exact.
C'est magique.
Coaching
et à partir de là,
impressionnant.
Mais tu vois le contre à la fin. En plus, le Japon à la Olivier Tom, le centre de Meunier parfait, Lukaku qui fait sa petite feinte et qui laisse couler. Mais c'est génial. Et c'est là que tu te rends compte en fait que la Belgique a très bien joué le coup et que les Japonais n'ont pas à rougir parce que ils sortent par la grande porte. Et c'est une défaite footballistique, comme je dis, parce que c'est avec l'honneur du foot qu'ils sortent les Japonais.
Olivier, justement.
Mais justement, moi autant le coach, le sélectionneur belge, pour moi, fait vraiment des super changements et je pense que t'as tout dit. Par contre, je trouve que le sélectionneur japonais, il le regrettait justement après le match d'avoir demandé à ses attaquants de continuer justement d'aller vers l'avant. Alors je pense qu'ils auraient dû fermer la boutique.
C'est un risque.
Ils auraient dû fermer la boutique. Parce que moi, les Japonais, en tout état de cause, pour moi, je les attendais pas à ce niveau-là. Je les attendais pas réussir à malmener autant la Belgique. Alors soit j'ai surcoté la Belgique moi-même. Soit j'ai sous-coté les Japonais, mais je m'attendais pas à un 3-2. Et c'est vrai qu'à la 74e, quoi, il y a 2-0, il y a les deux changements, enfin, bon,
c'est audacieux de la part du coach japonais, justement, de forcer l'attaque. Ça passe ou ça casse, c'est mais le vrai football, pas. C'est le football qu'on aime.
Ouais,
parce
qu'après,
quand
à 2-0,
tu regardes le Danemark,
une qualif pour les quarts de finale.
La dernière fois, tu prends aucun plaisir. Les joueurs prennent pas de plaisir, et puis les spectateurs aussi, c'est pas ça la Coupe du Monde.
Ah, là, c'est beau. Mais France-Danemark, je suis d'accord avec toi, c'était une vraie purge. Mais moi, maintenant, je suis sélectionneur du Japon. Japon demain, je le serai pas, c'est sûr. Mais en tout cas, je ferme la boutique à 2-0 et je tente la qualif.
2-0, comme beaucoup de personnes qui se l'ont demandé pourquoi, oui, le Japon n'avait pas justement joué le bus plutôt. Alexandre, on t'écoute sur ce retour de Belgique-Japon, 8e de finale.
On était ensemble hier, Bilal, on était autour de ces micros.
Sur l'antenne de Beurre FM.
Sur l'antenne de Beurre FM, on a regardé un petit peu le match ensemble du coin de l'œil. Moi, je suis rentré après, j'ai revu un peu les images. Le sentiment, après avoir revu quelques images de ce match, j'ai pas revu l'intégralité, c'est un peu le même que pendant qu'on était dans le studio. Déçu de la Belgique, parce que j'ai l'impression qu'ils ont pris un peu par-dessus la jambe ce match. Ils se sont peut-être dit, ce sont les Japonais, c'est pas grand-chose, c'est une petite nation du football, ils vont pas nous faire mal. Et du coup, ils se sont laissés prendre dans une spirale où ils se sont pris le premier, ils se sont pris le deuxième but très vite dans le début de deuxième mi-temps. Et derrière, bon, ça cogite, on les sentait un peu fébriles. Et c'est là où justement le Japon a été surprenant à l'envers, puisque du coup, moi j'avais vraiment l'impression qu'ils allaient rester devant les Japonais. Ouais. Et voilà, dans cette équipe de Belgique, il y a de la qualité.
Beaucoup de qualité.
À tous les étages, que ce soit chez les titulaires ou chez les remplaçants. Le sélectionneur c'est pas un peintre, hein. Il est très très fort, très intelligent. Il a su apporter et motiver déjà un petit peu avant Chadli et Fellaini pour les faire entrer. Et derrière, ça prouve la confiance qu'il leur a insufflé à ces joueurs belges. Et je pense que, du coup, voilà, ils ont réussi au mental à aller les chercher. Malheureusement aussi, boulette sur boulette du gardien, japonais, hein, c'est pas Thomas Price que tu citais Olivier Tom tout à l'heure.
Ouais. Hier, Karim Baldé pour tel match.
Voilà, ils sont fait après avoir, entre guillemets, à la hargne, un peu à l'expérience, les Japonais, mais bon, tant mieux pour la Belgique, qu'on attend quand même au tournant, du coup, face au Brésil, qui vont pas.
Ça va être autre chose.
Ouais, voilà, ils vont pas
Pas faux. La qualification des Belges est-elle maîtrisée ou miraculeuse, Mamadou? On a réussi à avoir après la réponse.
Pour moi, elle tient du miracle.
Avec Olivier.
J'entends les commentaires de mes collègues, et effectivement, ouais, leur argumentation, mais le but de Vertonghen vient un peu d'ailleurs.
Ah,
je pense qu'il est, enfin, je suis pas sûr qu'il le. Est-ce que moi je suis
c'est
pas
Van Bastel en 88.
Je suis pas
persuadé.
La tête des croisés au second poteau. Mais je suis pas persuadé qu'il l'a fait exprès. Donc pour moi, elle tient du miracle. Quand tu me parles de qualification miraculeuse, effectivement, ça relance les Belges, ça les remet en scène.
Elle est pas maîtrisée.
Alors effectivement, après,
on a cru avec un Titi Henry sur le banc qu'elle était maîtrisée.
Je pense que le match s'est emballé. Les Japonais, effectivement, n'ont pas fermé le jeu. Et c'est ce qui a permis, effectivement, peut-être aux Belges de revenir dans le match. Mais à un moment donné, on peut pas reprocher non plus aux Belges, aux Japonais, d'avoir joué le coup jusqu'au bout. Parce qu'ils auraient perdu en reculant. On leur a reproché de ne pas avoir attaqué et d'avoir pas fini le travail. Et c'est généralement
ils ce ont genre... été d'ailleurs en plus attaqués pendant le fameux match qui jouait dans le dernier match de poule, où de l'autre côté il y avait le Sénégal qui jouait contre la Colombie. On les a taxés de déjouer, de miner le match.
Je vais répondre à ta première question.
Ils
pour
ont
moi,
été vexés aussi pour ça. Ils ont voulu peut-être montrer qu'ils étaient capables de c'est jouer ça à fond.
Elle tient du miracle. Ouais. Tient du miracle. Pour moi, elle est miraculeuse. Tant mieux pour les Belges, parce qu'ils ont joué le coup et puis ils ont bien joué le coup. Et puis le quatrième but est magnifique. Mais de toute manière, je reste persuadé que le Japon a fait ce qu'il fallait faire, et c'est ça l'esprit de la Coupe du Monde.
Ouais.
Enfin, on est vraiment une très très belle Coupe du Monde, et ils l'ont bien effectivement exprimé hier.
On le rappelle, hier, justement, le Japon rencontrait la Belgique, 3-2 pour les Diables Rouges. Réaction avec Olivier G. On t'écoute, Olivier.
Ouais, juste, je reviendrai sur ce que tu disais juste avant. T'étais sur le
Sénégal, il était à un moment.
Ouais, voilà. Ouais. Justement, moi je trouve que le fait de vouloir jouer jusqu'au bout, c'est de vouloir montrer justement qu'ils peuvent jusqu'au bout, dans ce cas-là, c'est un manque de maturité extrême pour
oui
moi.
Aussi,
pour moi, c'est encore pire en fait.
Là où ils n'ont pas eu de chance, c'est que le gardien a fait des boulettes.
Ah ouais, mais ça.
Et du coup, ça déstabilise globalement.
Ils sont pas de grands gardiens au Japon.
Ça a déstabilisé globalement, je pense, les joueurs sur le terrain. Je pense que quand on. Nous-mêmes, on a peut-être déjà joué au ballon dans des clubs et tout.
Ouais, il faut, hein, pour intégrer Time Foot.
On sent une faiblesse parfois d'un des coéquipiers.
Ouais, juste en minime.
Parfois, ça se répand comme la peste, quoi. Et du coup, c'est là où ils se sont sentis fébriles pendant quelques instants. Les Belges en ont profité. C'est la raison pour laquelle ils ont réussi à revenir un petit peu miraculeusement, comme le disait Mamadou.
Il s'est montré rassurant à un moment, Kawashima, en faisant une double parade.
Ouais, à un moment. Mais c'était après les premières cagades.
Oui.
Par contre, pour moi, la grosse déception, c'est Lukaku.
Lukaku pour toi, le manque. Et pourquoi donc
pour moi, il a ramené. Il y a eu trop de loupés. Enfin, Lukaku, il a 2-3 possibilités à un moment donné.
Il tue pas le match.
Ouais, c'est ça. Il a vraiment moyen déjà de tuer le match et assez rapidement. Je trouve que c'est dommage. Il a un tel potentiel.
Ouais, il y a quand même du mieux dans son jeu de toute façon en plus.
Oui, il y a du mieux. Il a un tel potentiel ce garçon. Pour moi, ça doit être il doit être dans la surface, ça doit être un tueur quoi. Il n'a pas le droit de faire autant de gâchis.
Il le deviendra. Oui, il est en train de le devenir. Et puis là, avec les conseils d'un Thierry Henry, je pense que ça peut que l'aider.
Puis il est entouré comme de Bruyne et Hazard, quoi. Il a quand même deux patrons qui l'entourent.
Il y a des mecs qui vont lui donner des ballons. Donc
il s'est quand même rattrapé avec un ballon qui laisse passer entre les jambes. C'est quand même un beau geste.
Ouais, c'est
à ce moment-là du match, le faire avec la lucidité pour savoir quand même que le joueur qui est derrière, mais il le fait donc. Il est juste quand même rattrapé, quand même.
Est-ce que vous avez vu le comportement de Hazard quand, à un moment donné, je crois que c'est Lukaku qui rate une action quasiment immanquable. Il y a 2-0 pour le Japon. Donc tout le monde a la tête basse, tout le monde est vraiment, on sent que c'est presque terminé. Et Hazard quand même en leader d'équipe qui applaudit son équipe, qui l'encourage en disant mais c'est pas fini quoi. Et je trouve que c'est des gars comme
leadership pour l'équipe, c'est
vraiment. C'est là où ça a changé dans les moments dans comme la mentalité belge.
Ouais,
les Belges,
beaucoup.
J'ai des amis en Belgique qui m'expliquaient que voilà ils vont passer les quarts et puis enfin ils vont passer en quart. Et puis ça va s'écrouler comme d'habitude parce que dans le mental ça suit pas. Je crois qu'ils ont changé, qu'ils ont évolué positivement et c'est la raison pour laquelle le Belgique-Brésil peut nous apporter plein de surprises.
On espère en tout cas avec ce Belgique, excusez-moi, le Belgique-Japon, le 3-2 de hier, bien sûr. On va revenir sur l'avenir de cette sélection japonaise avec toi. Salut Diouf.
Bah, l'avenir, je sais pas trop, vu que ils sont en train de construire le futur, et puis ils ont construit le futur sur les trois derniers mois en limogeant Vahid Halilhodžić. Donc, c'est surfer sur cette vague, garder cette même structure d'équipe, et puis surtout ce même état d'esprit. Je pense que le Japon, en Asie, c'est la meilleure sélection. Voilà, il y a pas photo. Donc, franchement, il y a pas vraiment de projet concret d'avenir à faire. Il faut juste surfer sur une continuité, et puis voilà.
Au Japon, meilleure équipe du continent asiatique.
Ouais, le premier truc qu'ils vont faire, je pense, c'est prendre l'avion pour rentrer. Et derrière, apparemment, on parle d'un nouveau sélectionneur. On parle d'Hervé Renard. C'est sorti aujourd'hui, donc c'est pas fait, mais ça pourrait. On connaît les capacités d'Hervé Renard à gérer une sélection. On voit ce qu'il a pu faire avec plusieurs pays. Je trouve que ça serait un sélectionneur parfait.
Ça pourrait
parfait.
Avoir de la gueule,
Ouais. Et en plus, ça aurait de la gueule.
Ouais, une nouvelle aventure pour Hervé Renard.
L'homme à la chemise.
Ouais.
Toujours attaque la chemise. Et toujours bien repassé.
Ouais.
Sinon, c'est pas Hervé Renard.
Par contre, il y en a qui chambrait un petit peu. Je vais pas le citer. Il disait qu'il faisait plus, il faisait pas trop classe, mais plus, comment dire, pas videur, comment on appelle ça, rabatteur de boîtes.
C'est pas bien ça.
Ah, quand même. C'est méchant. Alexandre, justement, avec toi et aussi avec Mamadou. On n'oublie pas, chers auditeurs et chers auditeurs de Beurre FM, le 01 53 48 3000 pour réagir avec vos consultants de ce soir dans Time Foot. Les Belges peuvent-ils aller jusqu'au bout de ce mondial en Russie?
Oui. Oui. Ils ont la
On a un
qualité.
Peu trop tendance à les négliger.
Je crois qu'ils ont la qualité intrinsèque pour aller au bout. Je crois que la mentalité, comme je l'ai dit, s'est améliorée. Ils vont pas sous-estimer leur futur adversaire, je crois, puisque qui sous-estime le Brésil, en général, se brûle les ailes. Mais ils ont la possibilité. Après, il va falloir être très très costaud pour sortir ce Brésil. Il va falloir être très costaud. Même si le Brésil a montré quelques signes de faiblesse, parfois dans les matchs de poule, ils ont pas toujours été hyper.
Mais le Brésil est au rendez-vous, excuse-moi.
Défensivement, je les trouve défensivement pas extraordinaire, même si c'est un très bon joueur. Il y a Thiago Silva.
T'inquiète pas, on parlera de la France dans notre partie Time Bleu. Nous aussi, on n'est pas.
Ils se sont fait bouger par les Mexicains. Je sais que bon, au final, on retient la qualité du Brésil, la victoire, etc. Le match de Willian, le match de Neymar, mais. Les Mexicains les ont bougés en première période. Ils ont eu des occasions. Chicharito a été bon. Ils étaient à deux doigts d'en mettre un. Donc, il va falloir que la Belgique y croit. Ils en sont capables. Et qu'ils jouent un football rigoureux et en même temps teinté de folie et de qualité technique.
Toi, Mamadou, concernant ces Belges.
Pas très d'accord avec Alexandre.
Allez, pourquoi?
Parce qu'effectivement, moi j'ai vu une équipe brésilienne qui a maîtrisé son sujet en fait. Alors, effectivement, elle s'est fait bousculer.
On est sur les Belges, hein. Ouais. Mais la comparaison, tu vas la faire.
Le Brésil n'est pas fatigué. Le Brésil va aborder ce match, pas fatigué. Il fait très chaud. On s'en rend pas compte, mais il fait très très chaud. Les Belges ont donné beaucoup d'énergie sur
Parole.
Le match hier.
Le match sera à 20h, hein, cher ami.
Parole d'un gars qui était en Russie, hein. Il y a même pas 2-3 jours, hein. Voilà, c'est
possible,
pour ça.
Possible, mais le facteur physique va beaucoup jouer sur ce. Alors, bien sûr, là, on a vu que les Belges étaient très forts techniquement, tactiquement. Ils ont réussi à se recomposer pendant le match. Mais je pense que le facteur physique va être très important. Le Brésil, même en étant bousculé par le Mexique, a joué à sa main. Ils ont laissé passer l'orage et ils ont effectivement déroulé derrière. Dans la même configuration, la Belgique, j'ai pas l'impression qu'on a vu le même match.
Ouais.
Ils ont été bousculés, ils ont été chercher vraiment la victoire dans les derniers instants. Et le facteur physique aura beaucoup d'importance sur ce match-là.
Olivier, justement, sur ces Belges jusqu'au bout, peut-être.
Moi,
avant de terminer avec Sadio.
Ça dépend vraiment pas mal.
Ouais, justement, le fil rouge de la soirée. Avant de revenir à Olivier, qui oppose la Colombie à l'Angleterre, dernier huitième de finale. Sadio, il se passe quoi?
Donc, 53e minute, une supposée main dans la surface et penalty pour les Anglais.
Aïe, ça tombe assez mal.
Parce qu'il faut attendre en fait un petit peu parce que avec la VAR on sait jamais.
C'est ça.
Mais pour l'instant c'est penalty confirmé pour les Anglais. Non, c'est pas une main, c'est une faute.
C'est une faute.
Ils y vont tous les deux quand même au contact.
Ouais, quand même, ça c'est un peu chaud.
Mais pour les Belges, pour revenir sur les Belges, pour moi ça dépend vraiment du trio offensif. Il y a le trio magique, c'est De Bruyne, Hazard, Lukaku. Si les trois haussent leur niveau de jeu, bon, Hazard il a déjà un super niveau, mais De Bruyne pour moi c'est encore mitigé, Lukaku ça dépend des matchs. Je pense que la Belgique peut faire quelque chose. Maintenant, il va falloir vraiment hausser le niveau de jeu parce que le Brésil pour moi est largement favori. Offensivement, il n'y a pas, faut pas chercher ailleurs, c'est là que se trouve le meilleur potentiel pour moi.
Oui.
Et je vois le Brésil passer.
Brésil qui passe pour Olivier G. On termine avec toi, Sadio Diouf, concernant cette équipe de Belgique qui a rencontré justement en huitième de finale les Japonais avec un pensionnaire de Ligue 1, Conforama Sakai, c'est ça.
Ouais, et Meunier aussi.
Hein, aussi Meunier. Oui.
Surtout Meunier, non?
Meunier est marseillais aussi.
Meunier, c'est vrai. Surtout Sakai, parce que Sakai, on l'aime bien, c'est ça.
Effectivement.
Ah, ouais, aussi. C'est ridicule.
Tôt ou tard, Meunier, tôt ou tard, le hashtag tôt ou tard, il me fait toujours plaisir sur la tutosphère. J'aime beaucoup Meunier.
Oui, donc pour revenir, parce que moi je parle vraiment au quart de finale pour le coup.
Ouais, quart de finale. Projette-toi dans les quarts de finale. On a peur de ces quarts.
Que le Brésil va passer sans problème, puisque le Brésil c'est le gros calibre de cette Coupe du Monde. Donc la Belgique, ok, très belle équipe, des belles individualités, mais je pense que le Brésil va passer sans grand problème avec.
Tu voulais dire le Royaume de Belgique.
Voilà, le Royaume de Belgique. Voilà, exactement.
Merci messieurs. On le rappelle, on est ensemble jusqu'à 22h sur l'antenne de Beurre FM dans votre émission Time Foot du lundi au vendredi et le samedi 18h-20h. Une courte pause avant de revenir avec vous, chers auditrices, chers auditeurs. N'oubliez pas le standard au 01 53 48 3000. À de suite.
Time Foot revient dans un instant. Beurre FM 21h-22h. Time Foot avec Bilal Nenman.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 21h20, toujours en compagnie de vos consultants, Mamadou Lamine Manet de Deuxième Conseil, Salut Diouf, journaliste sportif, Olivier Gé, écrivain et consultant football, sans oublier Alexandre Seban, auteur et journaliste, le fil rouge de cette soirée, le dernier huitième de finale de ce mondial en Russie, avec Colombie, Angleterre, et justement, je crois qu'il y a eu des choses. Hein.
Effectivement, il y a eu des choses, on en est à plus de 50 minutes dans le jeu, je peux pas te dire le score exact, mais l'ouverture du score sur penalty, petit d'Harry Kane en plein milieu qui vient tromper Ospina de façon aisée.
Aïe, 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 justement, on suit ça de près. Vous pouvez réagir avec le hashtag TimeFoot et on essaiera de vous donner nos réponses. Si vous n'êtes pas d'accord aussi, vous prenez votre téléphone et vous appelez le 01 53 48 3000. Chers auditrices, chers auditeurs de Beurre FM, place au match de cet après-midi, 16h, le fameux Suède-Suisse.
Time Foot, l'analyse.
Eh oui, le Suède-Suisse, le match assez équilibré de ces huitièmes de finale. On en parlait déjà hier sur l'antenne de Beurre FM. Dominé n'est pas gagné, mais encore, la Suède devrait-elle se défaire de Laura Ibrahimovic pour avancer, Olivier G. Il en a fait encore des siennes.
Ouais.
Aimant ses bras. Après l'accueil d'un certain LeBron James,
oui,
aux Lakers.
Tout le monde a vu ça, tout le monde a vu son tweet, non?
Oui, oui, oui. Le King, c'est ça.
C'est beaucoup d'humour. Il est très sympathique, ce garçon.
Très sympathique.
Non, la Suède, je la trouve, impertinente, parce que finalement, elle est passée au barrage, pile poil avec l'Italie. Je la vois pas forcément à ce niveau-là non plus. Les Suisses, c'était quand même pas mal depuis la Coupe du Monde. C'est un match pour moi qui était très équilibré. Les Suisses ont plutôt bien dominé les débats, mais Forsberg, il a fait la décision. Il a fait une superbe deuxième mi-temps. Il était au-dessus en deuxième mi-temps. Je pense que c'est vraiment lui qui force le destin de son équipe. Et la Suède, pourquoi pas encore derrière, une petite surprise pour aller encore un peu plus loin.
On l'attend, en tout cas, on l'attend, cette sélection suédoise, sans Zlatan Ibrahimovic. Salut Diouf, on t'écoute.
Sans Zlatan Ibrahimovic, mais avec Toivonen. Ola Toivonen.
C'est ça.
Monsieur, plus de Toulouse.
Non, c'est pas possible, c'est une blague.
Non, mais voilà. Un peu de second degré, messieurs.
Ah d'accord, merci.
Non, mais une équipe suédoise valeureuse et courageuse qui a tiré les leçons de son match perdu dans les dernières minutes contre l'Allemagne. Donc forcément avec un peu plus de rigueur et plus d'expérience. Et une valeureuse aussi équipe suisse, mais ça reste donc un match où tu savais vraiment pas qui allait gagner. Donc c'était pile ou face, quitte ou double. Là, tant mieux, c'est les Suédois. Pour le coup, ils en sortent bien sur le jeu. C'est les meilleurs qui ont gagné. Il n'y a pas de problème.
Mamadou, d'accord avec Olivier. Où est-ce encore
Non, Saliou a bien repris un petit peu ce qu'a dit Olivier, mais j'irai je poursuivrai ce qu'a dit Saliou, à savoir match équilibré.
Ouais, avec
puis, le maître mot, efficacité. Les Suédois ont été efficaces. Là où les Suisses ont effectivement peut-être un peu plus tourné en rond, on va dire. Et les Suédois ont réussi à tuer le match. Donc, c'était peut-être pas le match le plus emballant qu'on ait pu voir entre
ça, c'est sûr.
Aujourd'hui et hier, parce qu'on a été quand même gâtés. Hein, je le répète encore, je vais pas revenir en arrière, mais ce Japon Belgique m'a vraiment enchanté et un peu plus emprunté sur ce match-là. Et ça s'est joué à l'efficacité. Les Suédois ont été efficaces. Ils savent le faire. Ils sont structurés et ils nous l'ont montré pour passer le tour suivant. Après, en se projetant, j'ai vraiment beaucoup de mal à faire des pronostics parce qu'à chaque fois que je me suis prononcé. Ouais. Tout peut arriver, mais il va falloir qu'ils osent un petit peu le niveau de leur jeu et qu'ils soient peut-être un peu plus dynamiques, on va dire, parce qu'on ne peut plus subir. Arriver à partir des quarts, là, je pense
pour
que c'est les équipes qui vont attaquer, qui vont gagner, je pense.
Ouais, Olivier,
La prime à l'attaque.
Si je parle d'attaque, tu peux noter que dans la première moitié de tableau des huitièmes, tu as eu 17 buts en 4 matchs. Et on va compter celui de l'Angleterre là, sur les 4 derniers matchs, tu en as eu que 6. Donc la prime à l'attaque, ça veut dire que ce que tu es en train de dire, si je te traduis, donc c'est une équipe du haut du tableau qui gagne la Coupe du Monde.
Ouais.
Je sais pas si je suis devin,
écoute, pourquoi pas, il y a la France, donc moi ça me va très bien, hein, je prends.
Le meilleur buteur de ce mondial en ce moment, c'est qui? Harry Kane.
Donc lui, c'est monsieur 2 buts par match, puisqu'il a joué que 3 matchs, il a pas joué le 3ème match contre la Belgique dans les poules. Donc c'est monsieur 2 buts par match.
Statistique approfondie avec Olivier G. Justement, Alexandre, qu'a-t-il manqué aux Suisses?
Un peu de.
Dans ce match, c'est juste.
Un peu de réussite, ils ont eu la possession, je crois, ils ont essayé d'organiser leur jeu, de faire des attaques placées, ça a manqué de réussite. Il a manqué ce petit plus, je crois que Saliou l'a bien dit, c'était du 50-50. Ouais. Et du coup, celui qui a eu un peu plus de réalisme a réussi à se qualifier. Tout à l'heure, Olivier parlait d'équipe impertinente. C'est je crois que c'est ça, la Suède, avec impertinence, elle se faufile, elle passe, elle avait éliminé l'Italie en barrage des éliminatoires, si je dis pas de bêtises.
Alors que tout le monde la voyait sortir.
Ils ont fait une belle phase de poule, ils ont perdu contre les Allemands in extremis, ça s'est pas joué à grand chose, ils auraient peut-être dû obtenir le match nul. Ensuite, ils ont bien joué le coup, là ils passent, derrière on verra contre qui ça se joue, je crois qu'ils sont arrivés à un maximum. Je crois qu'ils pourront pas faire mieux. On les attend maintenant, puisque de toute façon les quarts de finale, ça sera le round
terminera
particulier.
En quart.
Je crois que c'est une très belle réussite pour eux. Ils avaient plus besoin de Zlatan Ibrahimovic. Parfois, ça désinhibe aussi, même s'ils s'entendaient probablement très bien avec Zlatan. C'est une star, Zlatan.
Et c'est Suède, beaucoup plus fluide sans lui.
Il pouvait être inhibant, peut-être dans un groupe. Je pense que certains avaient du mal à s'extérioriser. Là, ils sont tous ensemble, ils arrivent, ils se dépassent, ils se savaient attendus justement parce qu'il y avait plus Zlatan aussi. Et du coup, voilà, ils ont entre guillemets ébloui, entre guillemets, jusqu'à ce prochain quart de finale. Je pense qu'ils sont au maximum.
Tout le royaume est fier.
Et ils partiront dignement, un peu comme les Japonais sont partis dignement, je pense.
Toute la Suède est fière, en tout cas, de ce parcours pour le moment. Oui, Olivier.
Ouais, non, je réagis parce que je suis complètement d'accord avec Alexandre. En fait, moi, je pense que si Zlatan est là, Forsberg ne fait pas son après-midi.
On va revenir à Forsberg.
Parce que c'est vraiment lui qui déclenche le truc. Et
sans aucune méchanceté, je veux dire, il était là, mais parce qu'il méritait d'être dans cette équipe. Après, mais il devait inhiber les autres.
Exactement, je suis assez d'accord avec ça. Il libère les autres. Son absence libère les autres, je pense.
La 64e minute de jeu entre ces deux équipes, la Colombie et l'Angleterre. On t'écoute, Saliou.
Et ça chauffe sur le but colombien et puis ça se durcit dans les contacts. Les Colombiens sont très très rugueux. Falcao a failli prendre un jaune et puis un pénalty peut-être oublié pour les Anglais.
Ouais.
Affaire à suivre.
Justement, on revient à nos Suisses. Saliou, avec toi.
À la Suisse, comme j'ai dit tout à l'heure, écoute, c'est déjà pas mal ce qu'ils ont fait. C'est les huitièmes de finale, c'est un beau parcours pour eux, parce que n'empêche, ça reste une sélection.
Merci, au revoir, quoi.
Non, mais ça reste une sélection, voilà, classique. Il y a
décorer,
quelques
quoi.
Individualités, quoi. Voilà. Regarde, par exemple, il y a Xhaka. Xhaka, c'est comme ça qu'on prononce, ouais. C'est un peu compliqué.
C'est
qui
ça.
Fait pas une très très bonne saison à Arsenal et qui est censé être un des leaders techniques de cette équipe, technique et dans le jeu, dans l'ensemble, quoi. Un leader dans l'ensemble, et puis Shaqiri aussi qui est un joueur qui est plutôt un bon joueur, et mais voilà, sans plus. Donc moi je vois pas ces joueurs là qui capables de, par exemple, si je me projette vraiment dans les demi-finales, ben je voyais pas la Suisse passer les demi-finales,
pas
par exemple
du monde potentiel, voilà, il y avait
quoi.
Pas
donc
j'en prie, vas-y, termine. Et
ouais, en gros voilà quoi, c'est ce qu'on pouvait attendre de cette équipe, c'est tout.
Ouais, je suis d'accord avec toi, et c'est vrai
qu'ils
ont fait une très belle campagne d'éliminatoire. Ils ont tenu la dragée haute quand même au Portugal, ça s'est joué à pas grand chose. Ils avaient battu les Portugais au sortir de l'Euro 2016. Ils ont perdu le match décisif, le dernier match, le match retour face aux Portugais. C'était le dernier match de la poule. Ensuite, ils se sont qualifiés dignement. Donc voilà, ils ont proposé quelque chose de positif. Ils ont tenu tête au Brésil dans le match 1.
Ouais.
Et puis derrière, ils méritaient leur place en huitième de finale. Là, ça s'est pas joué à grand chose, mais on les voyait pas non plus aller beaucoup plus loin.
Petite stat quand même.
Alors Olivier,
tu prends la Suisse sur les trois, je crois que c'est les deux ou trois dernières coupes du monde, ils sortent à chaque fois au péno de toute façon. Là, disons que bon bah c'est autre chose, ils perdent 1-0, mais je veux dire c'est une équipe qui est faite pour les huitièmes. Ils sont là, c'est un pays qui est neutre jusqu'au bout quoi en fait. C'est-à-dire
c'est
qu'ils
un
sont
bon
présents,
sparring
mais,
partner.
Voilà, c'est un bon sparring,
partner.
On se croirait dans la boxe là, mais on reste dans le foot, c'est time foot. Mais c'est vrai, je suis d'accord.
C'est une équipe qui n'arrive pas à se transcender en fait.
Mamadou.
À un moment donné, il faut passer la vitesse supérieure, et les Suisses, on a toujours l'impression que ça ronronne.
On parlait de formation qui excelle quand même. Du côté de la Suisse.
Oui,
c'est dommage.
Chapuisat s'est fait dépasser en termes de sélection par Lichtsteiner. C'est maintenant c'est Lichtsteiner qui est le joueur le plus capé.
On n'a pas un patron, on n'a pas un leader, on a un collectif qui ronronne, je le répète encore, je me répète qui ronronne, mais on n'a pas quelqu'un qui va tirer cette équipe vers le haut, qui va lui faire le petit coup de pouce pour pouvoir effectivement passer le niveau supplémentaire.
Il aura manqué peut-être un mec comme Lewandowski devant,
oui.
Ou un Harry Kane, un petit plus, un joueur qui a un peu plus de talent que les autres et qui arrive, voilà.
Dans tous nos propos, il y a toujours ce leitmotiv qui revient, il manque quelque chose. Il leur manque quelque chose. On n'arrive pas, mais il manque quelque chose.
Je suis d'accord.
Justement, Olivier, tueur, un shark, que peut-être que le disait Special One, José Mourinho, il en faut un à chaque fois dans chaque sélection de voilà d'un pays quoi.
Bah pas forcément, si tu regardes 98, non. On a personne devant.
Et
il va
voilà,
Gary,
c'est
devant bon attaquant. Mais je veux dire, c'est pas grâce à eux qu'on gagne la Coupe du Monde, faut être clair. Mais donc pas forcément,
ouais.
Mais quand même dans un d'abord, c'est le collectif qui prime, un gros collectif avec des individualités.
Tu peux pas parler comme ça de Christophe Dugarry. Non,
mais on fait des
blagues. Je plaisante. Vraiment. Là, pour le coup, je plaisante. Ouais. C'est un très grand consultant, mais il est plus fort consultant que ce qu'il était joueur.
Mais juste pour terminer cette théorie, oui, pour une équipe comme la Suisse, pour moi, il faut un tueur devant. Parce que c'est simplement ça qui leur manque pour aller un peu plus loin. Tu mets Lewandowski, je suis complètement d'accord. Ou un Cavani, un truc comme ça devant. Puis peut-être, ils battent la Suède peut-être aujourd'hui.
Ça reste incroyable. Justement, la Suède, justement, ce match peut-il relancer le mondial? On en parlait avec toi, Olivier, d'Emil Forsberg.
Ce match de la Suède, peut-il relancer le mondial? Je sais pas. Moi,
Suède-Suisse, ouais.
Je sais pas. Je pense pas que la Suède, moi, elle peut gêner encore. Maintenant, je la vois soit terminer en quart ou en demi. Mais pour moi, dans ce bas de tableau, pour moi, il y a deux équipes qui sont au-dessus. T'as l'Angleterre, sur le potentiel et parce que j'adore aussi.
Bien
donc,
sûr.
Déjà, je suis moins objectif. Et t'as la Croatie avec ce milieu de terrain, même si moi un peu déçu contre le Danemark, mais t'as ce milieu de terrain Modric,
ouais.
qui est juste magnifique sur le papier.
C'est incroyable.
Donc, ça continue sur le terrain, mais ils l'ont prouvé contre l'Argentine. Ils étaient capables de faire de superbes choses ensemble.
Ça sortira donc en quart de finale pour toi, sûr.
Ouais.
Ouais, sûr.
Non, pas sûr, mais grande. Allez, à 75-25.
Ouais. Sur un malentendu, ça peut passer, ma foi.
Ouais,
mais...
comme c'est ça. C'est jamais passé pour Jean-Claude.
C'est jamais passé. Donc,
les Russes ont gagné l'Espagne, la Jora.
Souvenez-vous de la Grèce après tout.
Par contre, les Russes, j'espère qu'ils vont se faire dégager vite et bien.
Ah ouais.
T'iras pas en vacances en Russie.
Non, mais voilà, les équipes qui
j'espère
mettent
que
le bus comme ça,
chez Russie,
c'est bon, ça suffit. On a la Coupe du Monde, on n'est pas. C'est pas le tournoi du Val-de-Marne, quoi.
Attends de voir le quart de finale face à l'Uruguay. On verra bien.
Ouais, mais non.
Ah, mais non, ok, y a pas de problème. Ah, attends. Eh ben, attends de voir. On verra si nous aussi on mettra pas un bus.
Non, non, y aura pas de bus.
Ok, ben,
c'est
attends
les Uruguayens, Nabil, qui vont mettre le bus. Ouais. Bilal, pardon. Bilal, ouais. Mettre le bus.
Eh, l'Uruguay, c'est un bus pris simplement depuis début de.
Un bus de qualité, un bus Rolls-Royce.
Ah, Olivier.
Jiménez, Godin.
On va en arriver, justement.
C'est ça.
On va arriver.
Axal sur le côté gauche.
Ah, Madou, je te vois rigoler, là, sans cesse. Pourquoi donc?
Non, 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 parce que c'est effectivement, on dévie un petit peu, mais.
On dévie pas. On a un conducteur, on le suit bien, t'inquiète pas. Il y a le time bleu qui arrive, mais on essaye de titiller un peu tout le monde.
Pas le conducteur.
On utilise un ton un peu taquin ce soir, c'est pour ça. Voilà, c'est là où on dévie. Non, mais.
On est détendu avant, sur Uruguay, c'est ça.
Si tu veux mon sentiment sur la Suède, je les vois vraiment pas, je les vois caler, là. Enfin, s'ils proposent le même type de jeu qu'on a pu voir effectivement là contre la Suisse.
Ouais, ça...
Je suis pas sûr que ça soit suffisant pour passer le tour supplémentaire. Après, on a eu beaucoup de surprises. On a parlé tout à l'heure effectivement de la Russie.
Bien sûr.
Encore à ce niveau-là. Mais je les vois pas. Je les vois caler là.
Ouais.
Je vois les Suédois caler à ce niveau-là. S'ils proposent le même type de jeu.
En tout cas, ils n'aimeraient pas caler à ce niveau-là. À ce parcours dans ce mondial, c'est la sélection colombienne en la personne de James Rodriguez depuis les tribunes. Ça me fait rappeler l'Euro 2016 avec un certain Cristiano Ronaldo. Il reprend un peu les gestes de Pekerman, sélectionneur de la Colombie. Que se passe-t-il? Salut avant la pause.
70e minute, 1-0 pour l'Angleterre. Ça pousse toujours sur le but colombien, mais la vérité de la 70e minute n'est pas forcément celle de la 80e. Donc, attendons de voir.
Pour l'instant, Dieu sauve la reine.
Aïe, 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 aïe. Vous restez avec nous pour la dernière partie de cette émission qui est Time Foot. N'oubliez pas la twittosphère avec le hashtag Time Foot et aussi la fanpage Facebook de Beurre FM, le 01 53 48 3000, pour vous faire réagir avec vos consultants. À de suite.
Time Foot revient dans un instant. Beurre FM. 21h-22h. Time Foot avec Bilal Nenman.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, il est 21h35 en compagnie de vos consultants, je le rappelle. Autour de la table pour m'accompagner durant une heure, Alexandre Seman, auteur et journaliste, Olivier G, écrivain et consultant football pour la première fois sur l'antenne de Beurre FM. Salut Diouf, journaliste sportif, sans oublier Mamadou Lamine Mané de Deuxième Conseil. Justement, on revient à notre fil rouge avec toi. Salut Diouf, que se passe-t-il? C'est la 73e minute de jeu.
Effectivement, 73e minute, c'est toujours 1-0 pour l'Angleterre et toujours la même domination pour les Anglais. Une statistique à prendre en compte, 6 corners pour les Anglais face à 0.
Une petite statistique, si je peux me permettre.
Alexandre aussi. On est plein de stats ce soir.
Je sais plus où je l'ai lu, sur quel site, peut-être eurosport.fr, une petite publicité pour eux.
Nos confrères.
Qui sont pas mal. Les Anglais ont marqué 8 buts avant le match de ce soir. La dernière fois que c'était arrivé, c'était en 1966.
Ah ouais,
ceux qui connaissent l'histoire, ils ont été champions du monde cette année-là. Ma foi, ceux qui sont superstitieux.
Après, il y a une anecdote sur ça.
Il y a eu l'Argentina et maintenant c'est l'Angleterre. Hein.
Quand il y a un mariage royal, l'Angleterre est championne.
Ok.
Il va se marier tous les 4 ans.
Ouais.
Voilà.
Lady Di avec Charles, c'était en 81, c'est ça, ou 80, Olivier? Je crois 80. C'était pas 82, non, parce que. Non, ouais, c'était 80.
Enfin, moi, c'est ce que j'avais entendu, ça se trouve, je dis.
Ok, ça va, il y a pas de problème.
C'est 80.
Par contre, si vous regardez vite fait le match, là, vous voyez quand même qu'Harry Kane, il va même chercher le ballon au milieu de terrain. C'est, toute l'équipe joue pour lui.
Il passe un coup de balai derrière et tout.
Il passe le balai, il est
mort le soir avant d'aller au lit.
Il va même au milieu de terrain, le gars, il est censé juste finir les actions. C'est vraiment
c'est un vrai leader. Il tire vraiment cette sélection vers le haut. C'est la raison pour laquelle ils y croient un petit peu plus cette année, les Anglais. Ils ont une sorte de moniteur de colo là avec eux, Harry Kane, qui les tire, qui sort sur une vague incroyable de buts l'année calendaire 2017. Il a été incroyable. Il a marqué un petit peu plus de buts que Messi et Ronaldo, ce qui était incroyable. On n'y pensait même pas, c'était impossible il y a quelques années d'imaginer ça. Il est sur une bonne dynamique et il les pousse et pour l'instant ça marche.
Attends, je veux juste contrer Alexandre pour lui dire un truc. Moniteur de colo, c'est un peu péjoratif parce que dernier moniteur de colo qu'on a connu dans le mondial, c'était pas plus tard que samedi après-midi. Il est chauve, ses initiales c'est JS et ils ont un maillot blanc et bleu. Voilà, je pense que vous avez deviné qui c'est.
Javier Mascherano, si tu nous écoutes.
Ah ouais, c'est pas bien, c'est pas bien. Messieurs, place à notre Time Bleu.
Time Foot, l'analyse.
Et justement, un quart de finale dangereux, très dangereux selon nos Sud-Américains, les Uruguayens, qui ont remporté tout de même deux fois la Coupe du Monde. Deschamps, doit-il se passer d'un Antoine Griezmann moyen dans cette Coupe du Monde? Beaucoup d'internautes, beaucoup de bookmakers se demandent à quand une entrée, une titularisation d'un certain Nabil Fekir. Olivier, on t'écoute.
Moi je pense que justement c'est autant je suis fan de Fekir, autant je pense que c'est un match pour Griezmann. Là on l'attend depuis le début.
Il connaît bien.
Hein, voilà, il connaît bien. Moyen, c'est oui. Très
avec la tête
de Uruguay, quelque part c'est très défensif, c'est très solide derrière, c'est un petit peu aussi un jeu un peu à l'Atlético, c'est aussi solide derrière, je pense que tout ça il connaît bien, il peut péter les verrous pour moi. Parce que attention, ce match là, c'est autant on fait un match fabuleux contre l'Argentine, autant contre les équipes qui sont repliées défensivement, on fait souvent des purges. Je vous parle pas de France-Australie, je vous parle pas de France-Pérou, et je vous parle pas de France-Danemark, où là, je me suis endormi, et j'ai joué au Scrabble, pour finir.
Moi, je te rejoins. Ouais. Salut, Diouf. On va revenir à toi, Alex. T'inquiète pas, parce qu'il y a tant de choses à dire sur cette équipe de France.
Pour le coup, moi, je suis plutôt d'accord avec Olivier en ce qui concerne Griezmann.
Ah, maintenant, t'es d'accord. Ah, non, il a eu peur pendant la pause.
Non, mais parce qu'en fait, je suis d'accord sur un point, parce qu'il y a un paramètre qui a changé. C'est, je sais pas si, messieurs, vous avez entendu les déclarations de Luis Suarez.
Oui.
Parce que, Griezmann, je recontextualise le
truc.
Il
est français, Griezmann,
ça? Ouais, apparemment. Donc, Griezmann, en fait, est très pote avec Godin. Ses premiers entraîneurs sont des Uruguayens. Et, il est fan du yerba maté. Donc, pour les auditeurs, le yerba maté, en fait, c'est une boisson traditionnelle qui se boit
abondamment.
Chaude, abondamment, oui. Énergisante en Sud-Amérique.
Il a toujours à la main. Quand il arrive, oui, à la main.
C'est une calbasse, ouais. Et donc, en gros, il a dit qu'il se sentait à moitié uruguayen. Et Suarez l'a contré ce matin en disant non Antoine, t'es pas uruguayen. Uruguayen c'est un état d'esprit, c'est plus que ça. C'est un tout petit pays, c'est des gens qui se débrouillent à réussir. Enfin ils réussissent à jouer au football avec des petits moyens tout ça. Toi t'es absolument pas uruguayen. Et ben je pense qu'à partir de tout ça, il va être remonté comme un coucou le Griezmann. Et il va mettre mais le feu. Et c'est plus que bénéfique pour les Bleus. Donc un Griezmann en feu, un Mbappé on fire. Et les demi-finales.
On l'espère, en tout cas. Le standard est ouvert, chers auditeurs et chers auditeurs de Beurre FM, au 01 53 48 3000. Oui, Olivier, rapidement, avant de donner la parole à Alex.
Alexandre, je t'en prie. Moi, je pense que Mbappé, ça va être très compliqué. J'espère qu'il va nous faire le match.
Jiménez, Godin seront bien présents.
Il va se faire un dent franc. Il est insouciant.
Il va prendre des coups. Il va se faire manger. Ils vont tout faire pour le provoquer. Ouais. S'il y a une cheville qui traîne, elle va partir avec. Par contre, moi, je crois en Giroud sur ce coup-là.
Ah, Olivier Giroud, désolé. Il rebondit sur Olivier Giroud.
Je disais salut.
On t'écoute.
Et pourtant, c'est rare qu'entre un Parisien et un Marseillais.
C'est vrai, d'habitude, on s'entend bien.
Je t'en prie, vas-y.
Non, j'allais vous dire ça. La vérité, c'est ça. C'est que Salut a raison. Un grand match de Griezmann pour donner des ballons sur la tête de Giroud. Ils se sont fait prendre une fois comme ça contre le Portugal, les Uruguayens. Et j'ai l'impression que ça peut être un match pour Olivier Giroud. Je pense que ce que tu allais dire également, c'est la raison pour laquelle. Je crois que ça sera pas forcément le match de Mbappé, de Mbappé, pardon. Faut pas dire Mbappé, d'ailleurs, faut dire Mbappé. Parce que, contrairement au match de l'Argentine, les Uruguayens vont jouer en bloc bas. Pour prendre de la vitesse avec un bloc défensif bas, c'est pas possible. Mbappé pourra pas faire des courses de 60 mètres à 37 km/h. Ça va être compliqué pour lui. Donc, il va falloir jouer dans des petits espaces. Il va falloir être très technique entre les défenseurs uruguayens. Soit ça peut le faire entre Mbappé et Griezmann, soit il va falloir mettre des ballons sur la tête de Giroud pour marquer un but. Et je vois bien Giroud nous débloquer la situation. Il n'a pas marqué jusqu'à présent.
Ça, du coup, Alexandre, parce que sur les petits périmètres, c'est de l'anti-Giroud, ça.
Oui, non, mais justement, soit Griezmann, Mbappé, ça peut le faire dans un petit périmètre, et là, ils vont surprendre, ils vont réussir à déverrouiller le catenaccio uruguayen, soit il faudra effectivement passer par des centres et essayer d'éliminer Godin et Jiménez comme ça, qui sont très forts évidemment de la tête aussi, mais Giroud est un peu plus grand, et peut-être qu'il va avoir son match à lui aussi, Giroud. Il l'a pas eu encore, il a fait une super passe à Mbappé l'autre jour, donc il peut peut-être nous apporter ce petit but qui nous fera peut-être gagner, qui fera gagner les Bleus en tout cas, 1-0.
Mamadou, concernant ce quart de finale, Uruguay et France.
Je reviens sur Griezmann. Moi,
Antoine Griezmann pour toi, oui.
Je l'ai prédit et je l'ai dit. Oui. Mbappé, au-delà d'avoir fait sauter le verrou argentin, il a décomplexé Griezmann. Il a porté une partie de la responsabilité de l'attaque. Je suis persuadé qu'en ayant pris le match sur ses épaules, contre l'Argentine, il a libéré Griezmann d'un poids, j'en suis sûr et certain. Et on va le voir. On verra que Griezmann va remonter d'un niveau. Et parce que Mbappé l'a libéré d'un poids, j'en suis persuadé. Donc pour revenir sur Griezmann, on est un peu déçus de
Griezmann.
Elles sont un peu en demi-teinte. On va voir le vrai Antoine Griezmann.
On disait tout à l'heure que Zlatan, l'absence de Zlatan avait du coup désinhibé les coéquipiers
de la sélection suédoise.
Mais là, justement, ça peut aider Griezmann.
Pour le coup, Griezmann était donné comme le patron avant cette Coupe du Monde.
Il a assumé
Griezmann, le patron, il vient de gagner l'Europa
League. L'Europa League face à Marseille.
On attendait beaucoup de lui. Donc, ce poids qu'il avait et qui fait qu'effectivement, il est un peu en dedans. Je suis persuadé qu'en ayant fait le festival de Mbappé sur le dernier match, va libérer Griezmann de l'autre côté et on va le voir sur le
prochain. Olivier, réaction face à ça.
Ouais, c'est bien possible. Moi, je vois bien en plus un match très compliqué, très fermé. De toute façon, on le sait. Moi, pourquoi je disais Giroud aussi, c'est parce que Giroud, il est habitué aux défenses un peu brutales. Enfin, je veux dire. Les défenseurs uruguayens, c'est
surtout avec l'équipe de France.
Il y a beaucoup de rage, c'est hargneux, il y a
la garra,
la graine, voilà, la garra, elle est très fort.
Et puis vraiment, on peut vraiment leur donner ça parce que pour le coup, ils ont pris un seul but en 2018. Mais à côté de ça, je pense que cette première mi-temps nous va servir à les fatiguer. Et je vois bien d'ailleurs Fekir rentrer avec Dembélé pour remettre un petit peu de taquet devant. Fekir, par exemple, à la 60e, s'il y a toujours 0-0 pour remplacer Griezmann et Dembélé pour prendre un côté histoire de remettre un peu de vitesse là où peut-être un Mbappé les aura fatigués ou un Griezou aussi un petit peu, voilà. Mais je pense que on ne mesure pas l'impact de Giroud sur un match comme ça et je pense qu'il peut vraiment, vraiment, vraiment être la clé.
Plus que Colombie, Angleterre, toujours un but à zéro pour la sélection des Twilight Lions et 81e minute, c'est bien ça, Sadio?
Oui, 81e minute et 1-0 toujours pour l'Angleterre, ça sent plutôt bon pour eux.
Et Rames n'en revient
quart
pas.
Quart de finale s'élargit de plus en plus pour nos amis anglais.
Justement, on reste toujours dans notre time bleu jusqu'à la fin de cette émission. Quel poste pour un certain Paul Pogba à la pop dance dans ce match? On espère en tout cas qu'il va essayer de faire danser ces Uruguayens. Alors,
le poste.
Oui, voilà, plutôt. Ouais.
Le pop milieu.
Oui.
Le pop milieu récupérateur.
Si tu veux, la Pogmania, si tu veux, vas-y. Et sûrement encore des.
Ouais. Les Pog chaussures. La Pog
tête. Ouais. Et pareil, ils vont en faire. Aussi. Oui. Oh, alors, justement, Paul Pogba, Alexandre.
Ouais, Pog but, pourquoi pas. Il va être important, je crois, Paul Pogba dans ce match face aux Uruguayens. Il monte en puissance. C'est vrai
qu'on attend beaucoup de Pogba aussi.
Les gens qui aiment bien le critiquer. C'est un super mec, d'après ce que j'en sais.
Il parle trop, mais il fait pas trop.
C'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui est très intelligent et qui a envie d'apporter à cette équipe de France. Je crois que Mamadou me contredira pas. Et il monte en puissance. Il a la technique pour nous envoyer un Griezmann, un Mbappé, un Giroud droit au but. Aucun clin d'œil à l'Olympique de Marseille quand je dis ça. Et je crois que lui aussi, il va être dans le combat physique aussi. Il a l'habitude maintenant en Angleterre, même si ça a été une saison difficile pour lui là récemment. Il va pouvoir apporter quelque chose, je crois. Pogba, il monte en puissance. J'ai confiance totalement en Paul Pogba.
Le poste de Paul Pogba, bah, avec toi, Sadio.
Je fais un petit aparté. J'ai une question pour tous les auditeurs de Burnley.
Qui nous écoutent, ils peuvent faire le 0-53-48-3000.
Qui me dit que Pogba est un titulaire indiscutable, et ben qu'il appelle.
Ah ben qu'il appelle, on verra justement.
Je l'attends au tournant.
Oui, on pourra en débattre.
Et donc moi, ce que je veux dire sur Pogba, c'est que en fait, il a intérêt à être très très bon contre l'Uruguay, en fait, parce que ça passe ou ça casse. Parce que s'il fait une contre-performance et derrière, par malheur pour les Bleus, la France est éliminée, et ben ce sera en grande partie à lui d'assumer les conséquences de cette potentielle élimination. Donc Pogba, il a plutôt intérêt à être, il sera titulaire, on est d'accord, au milieu de terrain, puisque Matuidi est suspendu. Ce sera sûrement Tolisso qui l'accompagnera, donc ce sera lui d'apporter ce leadership au milieu de terrain, et puis généralement dans le collectif, puisque N'Golo Kanté, ça reste le leader technique et physique, parce que physique, même s'il n'est pas forcément, il n'est pas forcément grand, ça reste quand même un joueur qui apporte beaucoup d'impact.
Quand t'as 18 poumons en même temps,
voilà, exactement. Et donc ce sera à Pogba d'assumer beaucoup de choses, et donc c'est soit ça passe soit ça casse, et il a intérêt à
c'est ça qui est dommage. Ouais, c'est vrai que Pogba a été beaucoup critiqué, et moi je peux comprendre ce que tu dis, Salio, que
on attend beaucoup,
c'est
de
pas
lui.
Un titulaire indiscutable, il a malheureusement pas toujours été au niveau, alors ça prend peut-être un peu plus de temps avec lui, on en attend beaucoup aussi.
Je crois que
Didier Deschamps a confiance en lui, c'est la raison pour laquelle il le laisse titulaire, et il y a des raisons certainement que nous aussi on voit pas, parce qu'on n'est pas aux entraînements de l'équipe de France. C'est vrai que moi-même, j'étais un petit peu critique à son égard, et Mamadou, on en a discuté la semaine dernière, ou il y a 15 jours, j'étais un peu plus critique envers Paul Pogba, et c'est la raison pour laquelle je comprends totalement ce que tu dis, Saliou. Mais je crois qu'il est quand même essentiel sur le terrain pour cette équipe de France. Bizarrement, même si c'est vrai qu'on ne le trouve pas flamboyant, on aimerait qu'il nous apporte beaucoup plus, parce qu'il nous dit qu'il peut nous apporter plus.
C'est tout à fait normal.
Mais il est dans une configuration, enfin en tout cas la configuration de Didier Deschamps est faite aussi pour que Paul Pogba s'épanouisse. Alors maintenant, il y a eu un match référence contre l'Argentine, et je crois que voilà, ils ont.
On est d'accord avec toi dans ce.
Ils ont mûri là d'un coup.
Salut.
Moi, je pense que c'est plus que normal d'être exigeant. On va faire une comparaison rapidement tous ensemble, les amis. Si ton enfant, ton fils ou ta fille à l'école fait partie des trois premiers à l'école, et ben t'es obligé d'être encore plus exigeant avec lui. Pogba, c'est censé être un top joueur, donc t'as l'obligation d'être très exigeant avec lui et donc t'attendre des performances de très haut niveau.
Olivier, il faudra pas le bannir de l'équipe de France, il y a un crash.
Non, mais ça va juste, je veux dire. On écoute Olivier, messieurs, s'il vous plaît.
Moi, je vous trouve dur avec Pogba parce que en fait, je te trouve dur pour le coup, puisque Alexandre était plutôt en train de sa défense. Ouais, Sadio, je trouve que t'es dur parce qu'effectivement, t'enlèves le mot Pogba, tu rajoutes un autre nom à la place, on trouve tout ce qu'il fait des bons matchs. Contre l'Argentine, il fait un super match pour moi. Effectivement, on attend plus parce que c'est un gars, on sait qu'il a un gros potentiel, on sait qu'il peut faire mieux, on sait aussi qu'il vaut 120 millions, on sait aussi qu'il joue à Manchester, on sait aussi qu'il a un coach qui s'appelle Mourinho, on sait que c'est un super leader à
aussi.
Mais attention, c'est un gars qui a 4 ans. Oui. Et puis, il fait ses matchs. Non, mais il fait ses matchs. C'est propre. On attend plus. Mais c'est propre. Et quelque part, est-ce qu'on lui demande plus pour le moment? Il a fait des matchs qui étaient bien pires en préparation. Il était totalement absent en préparation. Moi, je trouve qu'il monte en puissance. Ouais. Il monte en puissance. Quand l'Uruguay, ça peut être avec.
Et en plus, avec le 4-2-3-1. Parce qu'au début, ça jouait en 4-3-3, souvenons-nous. Ouais, c'est vrai que là, moi, dans le 4-3-3, j'aimais pas Pogba dans ce 4-3-3. Et là, dans le 4-2-3-1, je trouve plus utile finalement.
Mamadou, sur le cas Pogba avant la pause.
Pogba, c'est le prototype. C'est le type même de joueur où on retrouve la distorsion entre toute la communication qui est faite autour de lui
et les réalisations
sur le terrain. C'est qu'en fait on les minore toujours, c'est-à-dire qu'on en attend tellement, on en a tellement parlé, on fait tellement de mousse autour de lui que finalement ce qu'il fait de bien on ne le voit pas parce qu'on estime qu'il doit toujours faire mieux. Mais quand il fait quelque chose de bien, il faut le dire. Et il fait des bons matchs. Alors qu'est-ce qu'on attend de lui? Qu'il traverse tout le terrain, qu'il fasse des sombreros et autre chose?
Et non,
Pogba il fait son boulot pour l'instant. Moi je suis désolé, et c'est un point d'ancrage dans l'équipe de Deschamps.
Il a un peu de technique ces derniers temps. Et c'est
donc
là
c'était
que
global,
que les réalisations de Pogba, elles sont toujours regardées à la loupe. On ne lui lâche rien. Un autre joueur qui fait exactement le même type d'erreur ou autre chose, ça va passer. Pogba, ça ne passera pas. Parce qu'effectivement, il y a un focus qui est fait sur lui, sur toute la com qui a été faite sur lui, sur son transfert, sur son agent, ce fameux agent qui en fait toujours trop autour de ses joueurs. Et en fait, on se fixe là-dessus. On ne se fixe pas sur les réalisations du joueur. Pogba, aujourd'hui, c'est un joueur référent dans le système de Deschamps.
C'est un jeune aussi.
Ouais, il est jeune. Dans le système de Deschamps, c'est un point d'ancrage. Et je pense qu'il sera essentiel demain. Et lui aussi, j'espère que pour lui aussi, Mbappé n'aura pas déclenché que marquer
de taille.
Merci.
Juste pour finir, il va aussi décomplexer Pogba comme il va décomplexer Griezmann et qu'ils vont porter le.
C'est la clé peut-être.
On reste ensemble, chers auditeurs et chers auditeurs de Beurre FM jusqu'à 22h. On terminera avec encore l'équipe de France et Time Bleu, sans oublier le fil rouge de la soirée. On le rappelle, la Colombie perd devant l'Angleterre, 1-0. Elle va perdre. Moi, je crois que c'est, je les vois. Ouais, allez, elle est menée, c'est vrai, elle est menée. C'est le mot exact pour toutes les auditrices et les auditeurs de Beurre FM. On reste ensemble et on va revenir sur Didier Deschamps et plutôt la solution à aborder face à la sélection uruguayenne.
Time Foot revient dans un instant. Beurre FM. 21h-22h. Time Foot avec Bilal Nenman.
La dernière partie de Time Foot, 21h52, toujours en compagnie de vos spécialistes. Salut Diouf, journaliste sportif, sans oublier Alexandre Seban, auteur et journaliste, Olivier Gey, écrivain et consultant football, et aussi Mamadou Lamine Mané de deuxième conseil. On parlait dans ce Time Bleu de la sélection uruguayenne, d'Antoine Griezmann, et aussi d'un certain Paul Pogba. Quelle sera la solution pour briser la défense de fer uruguayenne?
Time Foot, l'analyse.
Tant de choses à dire avec toi, Mamadou.
Écoute, on s'attend tous à ce que l'Uruguay joue en bloc bas. Effectivement, enfin a priori, c'est ce qu'il devrait faire, attendre, parce que c'est une équipe qui est talentueuse, qui est très rugueuse, qui sait très bien gérer les temps forts et les temps faibles. Alors, on risque de ne pas voir le même match que contre l'Argentine, parce que qu'est-ce qui s'est passé contre l'Argentine? On est passé dans le dos de l'Argentin, on a pris des espaces, Mbappé a pris des espaces, tous les joueurs ont pris des espaces. Demain, ça va être un match où il faudra être patient. Je pense qu'il faudra être patient. Oublier l'Argentine, je pense qu'il faudra la mettre de côté. Les circonstances du match peuvent faire qu'effectivement, à un moment donné, ça se débloque et que l'équipe de France est forte, on l'a vu, dans le système de Deschamps, surtout avec des flèches comme elle peut avoir, s'il y a des espaces. S'il n'y a pas d'espace, il va falloir rester patient, parce que c'est un match qui va se jouer. Ça va être une partie de poker. Je vois bien une partie de poker demain, et le premier qui va avancer ses cartes, c'est lui qui risque effectivement de... soit de miser sur la bonne carte, ou de effectivement passer à côté. Il va falloir être très très patient. Voilà.
Olivier Géant, écoute, concernant ce quart de finale et cette sélection uruguayenne.
Eh ben déjà, je pense qu'on va passer un long moment bien ennuyeux, même si on sera tous bien stressés pour ce match-là, parce que je pense que ça va être très compliqué. Ça va plus ressembler à...
Tu nous le rappelles, hein, durant ce time bleu, c'est vrai.
Hein? Non, mais c'est vrai. Là, on vient de vivre une superbe joie avec France-Argentine. Beaucoup d'euphorie. Moi, je suis d'accord. J'ai adoré.
Et faire attention quand même.
Mais je pense que, j'espère qu'on va gagner. Je suis à fond pour les bleus et vraiment. Ah, attention, il y a.
Et là, ça promet, le fil rouge, justement. Non, alors, ça tombe toujours sur Olivier, hein. C'est notre porte-bonheur. On va l'avoir, tous les jours, sur l'antenne de Beurre FM, hein. Il s'est passé quoi? On le voit crier. On voit sauter James Rodriguez. Salut, Diouf.
Colombie, Angleterre, égalisation de la Colombie. Un but partout. Donc, on se dirige vers les prolongations.
Si tu peux reprendre là, parce que j'ai peur qu'il tombe, c'est Alexandre Seban. Et oui, on le voit dépité, Alex.
Ouais, non, je suis pas dépité pour les Anglais, non. Je réfléchissais à la suite du match. Je me disais que peut-être les Anglais allaient.
Et la reine doit pleurer.
La reine est en train de passer un coup de téléphone à Dieu. Mais non, ça veut pas dire que les Anglais passeront pas. Ils vont aller en prolongation. Ça nous permet d'avoir un petit peu plus de plaisir ce soir et de pouvoir prolonger la soirée tous ensemble, les gars, après mais hors antenne, j'ai l'impression. Mais vous parlez de l'équipe de France. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que il y a peut-être un truc qui peut nous donner de l'espoir. C'est le premier but de Mbappé. Ce dribble dans la surface, il peut nous effacer 2-3 mecs un peu à la Eto'o, un peu
alors
comme
toi, pour moi c'est là la grande différence.
Il peut nous effacer 2-3 mecs dans la surface, dans un petit périmètre, et alors, marquer un but.
Je pense qu'il se fait découper s'il fait
alors
ça.
Ouais, mais penalty alors.
C'est
ouais,
Kylian Mbappé,
il y a double penalty.
C'est Kylian Mbappé qui pourra briser cette défense pour toi. Ouais. On rappelle l'actualité, le fil rouge de cette soirée, le Colombie Angleterre avec toi, salut Diouf.
Et donc l'égalisation de la Colombie à 92e minute, c'est Mina, le numéro 13 colombien, qui égalise de la tête, une tête très puissante déviée par un Anglais, donc on sait pas encore s'il sera attribué le but aux Colombiens ou bien un Anglais contre son camp.
Mina, je crois qu'il est originaire de Medellin.
Il joue aussi à Barcelone.
Ouais. Ouais. Olivier, concernant Kylian Mbappé, c'est lui qui pourra. Alors pour revenir à ce match,
la reine essaie de joindre Dieu. Bah a priori, il capte pas bien parce que ça a l'air de mal tourner et j'ai vraiment peur que ça se finisse en hold-up parfait pour la Colombie. Pour revenir sur Mbappé,
justement, Kylian.
Moi, j'adore ce joueur. Je trouve qu'il est, il est fantastique. Même Pelé a fait des éloges incroyables cette semaine.
C'est vrai,
incontournable. La une au Brésil, c'était marqué liberté, égalité, Mbappé. Franchement, c'était juste trop beau. Mais je pense que c'est pas un match pour lui. Vraiment, moi, je reste là-dessus. Je pense que la clé viendra certainement de Griezmann
ou Giroud.
Et de Giroud.
Mamadou, tu es d'accord?
Ouais. C'est
le succès français pour briser cette.
Alors Mbappé, est-ce qu'il est capable de nous étonner encore? Est-ce qu'il est capable de nous étonner encore? Il est capable de nous étonner encore.
Encore une fois.
On a vraiment affaire à un phénomène.
Godin Jiménez, beaucoup plus fort que Mascherano.
C'est un garçon qui, à chaque fois que tu lui poses un palier, il arrive à se mettre au niveau du palier. Depuis Monaco jusqu'à, on l'a vu sur les premiers matchs de Ligue des Champions, une saison demi-teinte au PSG l'année dernière.
À part face au Real Madrid, peut-être.
Peut-être face au Real
Madrid. Avec le Paris Saint-Germain. Moi, j'aurais aimé, mais honnêtement.
Mais c'est un garçon qui, en fait, tu sens qu'il a pas, il tient la pression. Donc, effectivement, si demain il est capable de nous faire quelque chose, ça peut être effectivement une clé. Si c'est pas ça, s'il n'y a pas d'espace, si c'est fermé, et que je pense que, à mon avis, il y aura un plan anti-Mbappé, ça c'est sûr et certain. Les Uruguayens sont très bons tactiquement, surtout dans la tactique défensive. Peut-être faudra-t-il compter sur des joueurs comme Griezmann, Pogba pour débloquer effectivement la situation, si c'est pas Mbappé qui le fait.
Salut.
Moi j'ai deux scénarios. Le premier scénario, c'est un jeu très rapide dans les espaces au sol, ou alors un jeu comme disait Alexandre tout à l'heure, plus porté dans les airs, avec une éventualité d'une tête piquée de Giroud, une tête piquée ou plongeante ou peu importe,
ou sur un corner
ou quoi que ce soit, et éventuellement jouer dans les airs et marquer sur.
Tu comptes sur un malentendu? perdu quoi en fait.
Voilà.
Les Uruguayens sont très bons de la tête.
Ils sont fait prendre le but de Pep là, c'est une tête au deuxième poteau, je crois. On a été surpris qu'ils soient abattus de la sorte les Uruguayens. Mais ça sera ça, peut-être un but sur un coup de pied arrêté, sur une phase de jeu aérienne, ou bien effectivement une surprise. Va-t-on être capable de passer dans les petits espaces, de dribbler, de leur faire tourner la tête avec la capacité de dribble et de technique? Potentiellement, on a un jeu technique très très fort en équipe de France. On l'a souvent eu d'ailleurs depuis 30 ans maintenant avec la génération Platini. Mais je crois que oui, il y a en tout cas aussi le facteur X, ça peut être Mbappé.
Merci Alex, on termine avec Olivier.
En tout cas, ne nous y trompons pas. On voyait l'Argentine comme l'énorme épouvantail qui pouvait arrêter l'équipe de France. Pour moi, l'Uruguay est plus compliqué par rapport au jeu qu'on développe, par rapport à nos capacités offensives, par rapport à tout ce qu'on sait faire. Je pense que l'Uruguay est un obstacle plus gros que l'Argentine, parce que l'Argentine c'est une équipe qui joue. On est fait pour ces équipes là on est beaucoup moins fait pour jouer contre des équipes comme l'Uruguay. Donc je dis attention,
on retiendra les dernières paroles dans cette émission d'Olivier G, écrivain et consultant football. Je remercie aussi Alexandre Seban, auteur et journaliste. Salut Diouf, journaliste sportif, sans oublier Mamadou Lamine Mané de deuxième conseil à la réalisation avec Jérémy, et aussi Jouba Weshen en chef d'édition. Un gros big up à toutes les auditrices et les auditeurs de Beurre FM, de liker et de partager aussi toutes les infos sur la twittosphère avec le hashtag TimeFoot. On vous laisse en compagnie de Vanessa comme chaque soir après l'émission de TimeFoot, et nous on se retrouve demain à partir de 21h sur l'antenne de Beurre FM.
Retrouvez TimeFoot tous les jours de 21h à 22h sur Beurre FM.